France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Jean-Pierre Daroussin. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Comeau nous parlera de la nouvelle création du chorégraphe Angelin Preljocage. À 19h45, Affaires en cours. Les éditions POL viennent de faire paraître les inédits de l'artiste écrivain Édouard Levé. Thomas Claire expliquera à Marie Sorbier les enjeux éditoriaux et littéraires de cette publication. 19h50, Affaires à suivre. Direction ce soir, le Kosovo, avec le correspondant de France Culture, Louis Seyé. Le tout est réalisé par Lise Combe avec Arthur Dumont et Clara Galivelle à la prise de son. Bonsoir Jean-Pierre Daroussin.
Bonsoir.
Vous êtes en ce moment sur scène au théâtre du Montparnasse dans la pièce de Simon Stevens, Le principe d'incertitude. On en a parlé il y a deux semaines avec votre metteur en scène, Guido de Leon-Cousin. Vous serez ce mercredi à l'affiche du film L'école est à nous d'Alexandre Castagnetti. Double bonne occasion de vous accueillir ce soir avec grande joie pour parler de ses actualités, bien sûr, mais aussi à la lumière de votre parcours, de votre façon de pratiquer votre art. Enfant, jeune homme, vous aviez plusieurs passions. Il y avait le sport, il y avait la musique, il y avait la peinture, puis il y avait le théâtre. Qu'est-ce qui fait qu'au final, c'est le théâtre qui l'a emporté ?
Eh bien, parce que c'est ce que j'ai pratiqué le plus. La peinture, j'étais très attiré. Le sport, j'en faisais très régulièrement. Et puis, je pense que quand même la rencontre avec des jeunes filles, c'est plus fait au théâtre. La peinture, j'étais un peu seul. C'est quelque chose qui m'a pas trop convenu. Et le sport, je devais pas être assez doué.
Bah, le Guitar Hero, par contre, il était doué. Alors, avec le Nervous Breakdown.
Voilà, ça. Votre
groupe.
Ça, je m'amusais quand même un petit peu plus moi, j'étais chanteur et j'étais pas. Bon, je peux pas dire non plus que j'étais très, 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 très doué, comme c'est un peu comme le sport. Alors que finalement, eh ben, après avoir tâtonné de tout ça, c'est quand même le théâtre qui m'a renvoyé le plus de satisfaction.
Alors le théâtre, plusieurs invités, comédiennes, comédiens, m'ont raconté la même chose. C'était pas forcément leur univers. Et puis un jour, ils accompagnent un ou une amie à un cours. Et là, il y a une sorte de révélation. Est-ce que ça s'est produit aussi pour vous, Jean-Pierre Daroussin ?
Ça s'est fait en plusieurs étapes, parce qu'en fait, c'était quand même un petit peu mon univers. Puisque même à l'école primaire, je m'étais retrouvé, j'avais une institutrice qui avait voulu me faire monter des extraits, un petit montage des Malades imaginaires. Je jouais Argan. Alors, je peux pas dire que j'ai senti tout de suite une vocation, mais après, dès qu'il y avait du théâtre quelque part, j'essayais de m'intégrer à ça. Et même à un moment donné, avec des camarades, on avait retapé une salle une ancienne salle des fêtes à Courbevoie, et on avait monté un spectacle. Ça avait eu du succès. Le centre de loisirs de la ville nous avait aidés, nous avait accompagnés. On avait fait une tournée en Bretagne dans un vieux bus à plateforme, tout ça. Donc il y avait une aventure de saltimbanque qui commençait quand même. C'était assez fort et donc à chaque fois quand même que j'avais l'occasion, même à l'intérieur du collège, enfin du lycée, puisque à l'époque il n'y avait pas de séparation entre le collège et le lycée, peut-être on pourra en parler plus tard.
Les femmes savantes.
Exactement. Ouais. Je m'étais mis en tête de faire la mise en scène des femmes savantes. Donc voilà, je tournais un petit peu autour de ça et puis après je me... Comme c'était pas non plus quelque chose qui était ancré dans la famille de faire un métier artistique ou quoi que ce soit, donc moi j'ai d'abord commencé par travailler des artisans avec mon père, tout ça, et puis quand même le soir j'avais des copains qui en faisaient tout ça, donc j'allais voir et puis petit à petit je me suis retrouvé être entraîné pour aller au cours Florent. Ça a commencé, ça a accroché. Et puis, je dois te dire, bon là, je raconte souvent ça, mais c'est vrai que c'est mon père qui m'a un petit peu déclenché, puisque lui, il m'avait vu jouer au lycée ou dans les différentes expériences, tout ça, et il m'avait dit, mais tu devrais essayer de faire ça, quand t'es sur une scène, on a l'impression que t'es chez toi. Et
ah, c'est beau ça.
Et ça m'a, je peux pas dire que sur le coup, enfin ça m'a incité, mais quand j'ai repensé à cette phrase plus tard, je me suis dit c'est dingue et c'est vrai. Je reconnais que quand je suis sur scène, j'ai l'impression que rien peut m'arriver. Je suis chez moi.
Alors avance rapide. Accrochez-vous un peu, Jean-Pierre Darroussin. Passage par la rue Blanche, puis le conservatoire. Troisième et dernière tentative. Vous allez avoir Marcel Bulval, notamment, comme professeur. Au théâtre, dès 76, avec Jean-Louis Martin Barbaz. Plusieurs invités aussi m'en ont parlé. Laurent Pellic, Chloé Dabert, qui l'ont eu comme prof. Quelqu'un de très important dans le paysage théâtral. Mais au conservatoire, comme beaucoup l'ont raconté aussi, il y a la grande importance des gens qu'on y rencontre. Pour vous, notamment, Ariane Ascaride. Donc, et son époux, Robert Guédiguian, avec lequel vous avez tourné si souvent, on va revenir plus tard. Autre rencontre importante au conservatoire, c'est Catherine Fraud, et avec elle, et avec quelques autres, Pierre Pradinas, Alain Gautret, vous montez la troupe Le Chapeau Rouge, une aventure qui va durer 9 ans. Vous commencez aussi à tourner pour le cinéma, dès 80. La Comédie Française vous approche. Vous déclinez la proposition.
Dédaigné.
Vous avez dédaigné la Comédie Française.
Non, en fait, c'était pas vraiment un dédain, parce que vraiment, ça m'aurait plu énormément, mais il se trouve que j'étais déjà dans une troupe qui était Le Chapeau Rouge, et que ce qu'on faisait, c'était exactement ce qui m'intéressait. On s'amusait beaucoup, c'était des créations collectives, on écrivait nous-mêmes, il y avait des choses. Enfin, il y avait aussi un auteur qui était Alain Gautret, qui était un auteur formidable. Donc vraiment, l'expérience m'intéressait plus. Voilà, tout simplement.
Bonne raison. Et puis, cinéma, rôle plus important dans notre histoire de Bertrand Blier en 84. Il y a eu aussi le premier film avec Robert Guédiguian, Kilossa, en 85. Et puis, vous quittez tout pour aller suivre une formation d'instituteur dans le Lot. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Il s'est passé que la troupe s'est arrêtée. La compagnie du Chapeau Rouge au bout de 9 ans, il y a eu des brouilles, enfin des choses qui ont fait que la troupe s'est arrêtée, la vie de la troupe. Et moi, ça m'a arrêté aussi, parce que je concevais mon métier à travers une troupe, à travers justement ces créations collectives, à travers le groupe, à travers le fait d'être ensemble, de chercher, de faire des expériences, tout ça. C'était ça qui m'intéressait. Et donc, s'est posé la question à moi de savoir si j'allais continuer vraiment à faire ce métier. Donc j'ai voulu faire d'autres expériences, me frotter et puis aussi ça m'a permis ce retrait, ce recul, ça m'a permis de passer tout un temps à lire, à me compléter dans une culture que je n'avais peut-être pas totalement eu le temps de faire, d'avoir, parce que bon, j'étais un enfant et puis un adolescent assez rêveur, pas très un peu touche à tout, pas très discipliné, pas très il y avait beaucoup de choses qui m'avaient échappé, et j'ai senti à un moment donné que j'avais des lacunes justement pour faire ces expériences, pour me compléter culturellement. Je pense que qu'un acteur a vraiment besoin d'être quelqu'un qui a des réflexions un petit peu sur beaucoup de choses, de s'imprégner de la peinture, de s'imprégner de la musique, s'imprégner de la littérature, s'imprégner de l'histoire, de s'imprégner d'énormément de choses pour arriver à se forger une épaisseur et un point de vue sur les personnages qu'on est amené à accoucher à l'intérieur de soi, quoi.
Alors, je fais un saut dans le temps par rapport à cette expérience pour évoquer le film que vous avez réalisé, Le Pressentiment, adaptation d'une de mes idoles littéraires, Emmanuel Bouve. C'est un film sur le renoncement. Est-ce que c'était aussi une façon de parler de votre expérience à ce moment-là?
Absolument. Absolument, c'est marrant, vous êtes la première personne qui en parle comme ça, mais je sais que ce renoncement est quelque chose que j'ai vécu à un moment donné, en me disant que j'allais faire autre chose que le métier pour lequel je m'étais destiné à un moment donné. Je l'ai senti très très régénérant, et donc j'ai ce film là en partie raconte comment un individu à travers le renoncement se reconstruit autrement, arrive à arrive à changer de personnalité, ce qui est jamais très simple, même si dans la pièce que je joue, je dis que les personnalités, ça n'existait pas, et que ce ne sont jamais que la somme des choses que l'on fait et le chemin qui les relie entre elles, mais et que ça peut toujours changer, c'est jamais fixe, mais justement j'avais envie d'exprimer de rechercher ça. Et puis il y avait aussi quelque chose de très important, c'est que il y avait aussi ça, cette pièce, ce film racontait aussi un déclassement. Et l'histoire d'un transfuge, mais un transfuge dans l'autre sens, quelqu'un qui partait d'un milieu très bourgeois, très aisé, même d'une très vieille famille bourgeoise du 19e siècle, et qui cherchait justement à se déclasser, mais pas se déclasser en dans un sens de d'évolution et d'épanouissement social, dans le sens de
l'ascension,
de l'ascension sociale, mais au contraire d'aller retrouver des choses simples, de redevenir un homme simple. Voilà.
Bon, il faut lire Emmanuel Beau, il faut voir ce film, Le Pressentiment. Mais alors, je reviens en arrière pour savoir, après ce changement de vie, qu'est-ce qui vous a fait, en fait, revenir à votre métier de comédien, Jean-Pierre Darroussin ?
L'amusement.
Bon, ben voilà.
Voilà, l'amusement, l'amusement que... En fait, j'ai quand même été recontacté pour faire... de temps en temps, je gagnais un petit peu ma vie par-ci, par-là, mais j'étais contacté pour faire Mes meilleurs copains, le film de Jean-Marie Poiret. J'ai été pris, et puis je me suis retrouvé embringué dans cette histoire, et j'ai rencontré des gens avec lesquels je me suis beaucoup amusé, dont Jean-Pierre Bacri, par exemple. Mon aventure dans le Lot, c'est aussi un peu terminé. Donc, petit à petit, je suis revenu à Paris et surtout avec d'un seul coup beaucoup d'envie de découvrir d'autres auteurs de théâtre, de travailler autrement. Et il y avait, même si la troupe n'a jamais existé, mais on a quand même fait deux spectacles, on a joué beaucoup, presque 500 fois chacun. Cuisine des dépendances et un air de famille. Et il y avait aussi quelque chose d'un peu de l'esprit de troupe qui revenait là, quoi. Même si je pense que ni Jean-Pierre ni Agnès n'ont jamais voulu s'enfermer dans cette histoire-là, mais moi je le ressentais comme ça quand même un petit peu au début. Donc voilà.
On reviendra tout à l'heure sur le cinéma et on va parler de ce film qui sort mercredi, mais comme vous êtes sur scène aussi en ce moment, on va parler de théâtre. Et pour rentrer dans la conversation, on écoute le metteur en scène Peter Brook qui était mon invité en février 2021.
Pour moi, il y a une seule chose qui est le grand principe. Mais ça va du cœur que j'ai suivi toute ma vie. Je déteste les répétitions. J'ai horreur de vivre dans le passé. Quand quelqu'un me pose des questions, dans quelle date et où est-ce que vous avez rencontré, je peux jamais de réponse. Pour moi, la seule chose qui est vraie, et c'est ça qui m'a guidé dans toutes les mises en scène de cinéma, de théâtre, c'est l'immédiat. Est-ce que c'est vivant et est-ce que ça touche? Pas quand on lit les critiques, quand on en parle l'année suivante, mais au moment même. Parce que pour nous, il faut que les autres, les camarades, les acteurs, s'écoutent et que ce qu'ils disent soit touche. Ça, c'est le mot clé. Touche. Ces personnes qui écoutent, les spectateurs, sans eux, il n'y a pas de théâtre. Théâtre n'est pas quelque chose qu'on peut faire seul chez soi. Et c'est encore plus dangereux aujourd'hui quand on ne peut pas accueillir un grand masse de personnes. Mais c'est hélas la base de l'expérience théâtrale. C'est l'expérience vivant au moment même et partagée.
Commentaire, Jean-Pierre Darroussin.
De toute façon, très 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 admiratif de Peter Brook et de son travail au théâtre. Je suis évidemment d'accord. Il s'est bien rendu compte de tout l'avantage du théâtre, du fait de faire quelque chose de vivant, quelque chose qui est remis sur le travail tout le temps. On est tout le temps en train de chercher, tout le temps en train de recommencer, de refaire et d'essayer de refaire mieux tous les jours. Et c'est ça qui est passionnant. C'est ce côté vivant. Moi, le cinéma est quelque chose de très intéressant parce que j'y rencontre beaucoup d'auteurs, qui sont des auteurs contemporains qui ont envie de parler justement de ce qui nous entoure et tout ça. Mais faut bien reconnaître que pour l'acteur, c'est quand même un petit peu plus frustrant puisque c'est quelque chose qui est mort. Voilà, c'est un art un peu plus mort. On a joué à un moment donné et c'est fini. Et il y a quelqu'un qui va choisir. On est tout le temps en répétition. Au cinéma. On n'est jamais en représentation. La représentation, le fait de fabriquer cet objet, et ce qui est merveilleux, c'est ce qu'il dit, effectivement, c'est le rapport avec le public, c'est-à-dire le théâtre, il est là pour le lien. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'existe pas de société possible sans théâtre. Le théâtre est vraiment la chose centrale qui fait que, vous rendez compte, vous acceptez en tant que public de venir vous taire pendant 1h30, 2h, 2h30 pour écouter quelqu'un qui va parler de ses sentiments, parler de sa souffrance, parler de ce qu'il fait rire, parler de ses émotions, parler de ses révoltes, parler de sa rage, parler de tout ça. Et vous, il parle pour vous. Et donc c'est ce rapport entre l'acteur et le spectateur est vraiment absolument unique et essentiel dans le rapport de société, parce que c'est vraiment ce qui crée le lien entre la parole. Alors évidemment, il faut qu'il y ait aussi les auteurs sont très importants pour enfanter pour mettre la graine qui va faire que ce lien existe. Et mais les acteurs sont la l'énergie principale du théâtre et évidemment les spectateurs aussi. Nous, je ressens, c'est même ça qui me passionne et c'est même ça qui fait que je suis finalement très content d'avoir quitté mon renoncement.
Parce qu'en plus au théâtre, le comédien, il dirige d'une certaine façon le public, c'est lui qui choisit les focales, le rythme.
Souvent quand on me demande, j'essaie d'expliquer ça aux gens, l'acteur, il est metteur en scène, c'est lui qui fait le découpage.
Mais il y a des gros plans au théâtre.
Il y a des gros plans au théâtre, des inserts. Moi, on arrive à diriger le regard du spectateur sur un tout petit geste, sur un tout petit détail. Et puis, hop, d'un seul coup, il suffit d'un événement pour que on passe à un plan très très large. Et ça, c'est l'acteur qui évidemment doit maîtriser cette écriture-là. Donc, on se sent beaucoup plus responsable sur scène. Et puis, ce moment où il faut capter les vibrations, capter ce qui se passe, capter, écouter le partenaire, et mettre en jeu aussi ce qui se passe entre les deux. Alors, moi, en ce moment, je joue une pièce où on est deux sur scène. Donc, l'énergie, elle est plus simple d'une certaine façon, puisque, il faut essayer de faire vivre ce qui se passe entre nous, cet espace, cet espace comme entre. C'est marrant, je reviens encore à cette pièce parce que je parle de la musique dans la pièce et je dis que la musique existe elle n'existe pas dans les notes, mais elle existe dans l'espace entre les notes. Et ben, le théâtre, c'est un peu souvent comme ça. C'est l'espace entre les répliques, l'espace entre les gens, entre les acteurs, entre les personnalités, entre les corps. C'est ça qui dégage l'énergie. C'est ça qui soutient totalement le texte, c'est ça qui soutient la possibilité d'entendre quelque chose.
Alors justement à ce propos, puisque donc dans cette pièce, le principe d'incertitude, vous jouez avec Laura Smet, au départ il y a une grande asymétrie entre vos deux personnages. Le chemin proposé, ça va être évidemment celui d'une convergence entre ces deux êtres, mais pour arriver à remplir ces espaces entre les mots, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire de jeu? Là, c'est Laura Smet, mais d'une façon plus générale.
Déjà qu'il ressente lui aussi de l'amusement. Je pense que on ne peut pas. On a vraiment besoin. Le spectateur a besoin de sentir que l'acteur s'amuse à souffrir. Il faut que le spectateur sente ça. Sinon c'est tout à fait indécent de regarder des gens qui souffrent vraiment. Il faut sentir qu'on s'amuse à souffrir. C'est très important. Donc, il faut que le spectateur, il faut que le partenaire, qui est ce, il faut qu'il y ait cette connivence dans l'œil. Il faut qu'on sache qu'on est là pour vraiment prendre du plaisir. Parce que ce plaisir-là, il faut le communiquer. Puisque si on arrive à communiquer ce plaisir, tout ce qui va être dit va être beaucoup mieux entendu, va pénétrer, même pas forcément dans le cerveau, mais pénétrer même dans les pores de la peau pour après peut-être l'analyser. Les gens, quand ils vont rentrer chez eux, ils vont repenser et ils vont ressentir des choses qui seront passées par ce vecteur du plaisir, de l'amusement qui est simplement notre boulot. Ça veut pas dire qu'on cherche forcément à faire rire. D'ailleurs, c'est pas lié à la rigolade. C'est lié simplement au fait de rester enfantin.
Le jeu.
De rester curieux. De rester disponible à chaque instant, d'être un bon boxeur d'une certaine façon, d'être toujours sûr d'avoir les pieds campés. Et c'était James Cagney qui disait ça. Qu'est-ce que c'est que de jouer la comédie? Et James Cagney, il disait, c'est avoir les deux pieds dans la terre et puis dire la vérité.
Bon, voilà. Bravo à James Cagney. Mais puisque vous évoquiez la musique avant de parler de ce film, L'école est à nous, votre choix musical. Alors, il se trouve que j'ai revu hier pour la je ne sais combienième fois Mes meilleurs copains. Vous êtes un guitariste exemplaire dans ce film, Jean-Pierre Darroussin, et vous avez choisi ce soir d'écouter avec nous l'hymne américain interprété par Jimi Hendrix. C'est un choix de cœur, de passion.
C'est un choix de réflexion, parce que je pense que c'est un des premières fois où j'ai compris que finalement un acte artistique pouvait être aussi un acte de résistance. Et donc on se dit, tiens, quand on choisit de faire un métier artistique, savoir que qu'assez souvent, finalement, ça peut être aussi quelque chose qui est de l'ordre d'être un acte de résistance. Et ça, c'est un exemple somptueux, parce que je pense que Jimi Hendrix, quand il fait ça, à ce moment-là, il ne se rend même pas compte de la portée de symbolique et qu'il a peut-être fait encore plus que n'importe qui pour la fin de la guerre du Vietnam, en faisant ce moment-là. C'est un acte aussi fort que Guernica de Picasso, un truc comme ça. C'est un geste artistique fulgurant.
C'est en 1969, c'est bien sûr à Woodstock. Yeah!
Mais ça n'aurait pas pu être dit avec des mots.
On est d'accord, Jean-Pierre Darroussin. Alors, revenons aux mots et revenons au cinéma, cette fois avec L'école est à nous, d'Alexandre Castagnetti, qui sort ce mercredi en salle. C'est un film qui joue... dire deux mots quand même, l'héroïne de ce film, c'est Sarah Succo, formidable comédienne, qui vous avait dirigé dans son film, Les Éblouis. Elle joue cette fois une professeure de mathématiques qui va profiter d'une grève dans l'éducation nationale pour tenter une expérience pédagogique radicale avec ses élèves. Je n'en dis pas plus. Alors cette fois, vous n'avez pas le beau rôle, hein, Jean-Pierre Darroussin. Vous êtes le proviseur qui ne veut pas de vagues, qui aimerait surtout pouvoir enfin écrire ses mémoires. Qu'est-ce qui vous a fait, vous, accepter ce projet-là? Qu'est-ce qui fait que vous dites oui à un projet?
Eh ben, comme une forme de cohérence, finalement. Parce que, comme
l'amusement.
C'est pas que l'amusement, là, c'est vraiment... Mais l'amusement, il, ouais. Évidemment, il y est lié. Mmh. Mais un film qui parle d'une expérience. C'est quelque chose c'est quelque chose à encourager. Enfin, je trouve que c'est nécessaire de montrer un petit bout d'utopie, de quelque chose où il y a du possible, c'est réconfortant que des gens se lancent, aient le courage, aient l'audace de briser des certitudes, de briser des choses où on se dit, bah non, on peut pas, on n'y arrivera jamais, c'est impossible. Bah non, il y a toujours, à un moment donné, dans l'existence du monde des hommes, il y a toujours un type quelque part qui vient dire, on n'a qu'à quand même essayer. Et c'est ce qui se passe dans ce film. Donc de montrer ça, je trouve ça vraiment très 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 intéressant parce que ça pose des questions. Après, une fois qu'on a lancé une expérience, ça débouche sur des réflexions. On voit bien d'ailleurs quand le film est présenté à droite à gauche. D'un seul coup, les gens parlent soit d'abord de leur propre expérience, soit de ce qu'ils ont vécu, quel est leur rapport à l'éducation nationale, quel est leur rapport à l'enseignement. Et puis, ils voient bien aussi qu'on a affaire à des vagues de jeunes, d'enfants qui vont là un peu parce qu'ils sont contraints d'aller à l'école et que finalement, c'est un cadre. Mais ce cadre-là, ils aimeraient bien aussi, eux aussi, trouver du plaisir. Justement, quel est l'endroit où l'enseignement peut les épanouir, pas uniquement dans la connaissance, mais aussi dans le plaisir. Donc ce film, il ouvre cette petite porte. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis le personnage, il est quand même assez rigolo. C'est assez rigolo de créer un personnage qui est... qui a une espèce de frustration, qui a certainement eu la foi dans le fait d'avoir d'être directeur de principal de collège et qui défend l'institution, qui y a cru certainement longtemps, puis qui est de plus en plus fatigué parce que dépassé par les événements, dépassé par tous les problèmes administratifs, dépassé par les parents d'élèves qui lui demandent des comptes sans arrêt, les collèges qui maintenant eux-mêmes sont notés pour savoir s'ils sont bons ou s'ils sont pas bons, tout ce qu'il faut défendre. Et donc, il s'est mis à écrire ses mémoires parce que quand même, il se dit à un moment donné, ils vont voir ce qu'ils vont voir, qu'est-ce que c'est que la vie d'un principal. Mais bon, ça va pas très loin. Et ce pauvre homme, il est finalement un peu touché par l'expérience de cette professeure de mathématiques. Il a envie de la défendre, mais il n'y arrive pas bien.
Alors sur ces deux points que vous venez d'énoncer, qui me font l'intérêt grand de ce film, qui m'a fait rire et pleurer, la question d'intériorité, elle est toujours intéressante, et ça c'est quelque chose qui est chez vous, ce jeu faussement en dedans. Quand on vous voit jouer, je m'explique un peu mieux, on a le sentiment qu'il y a un décalage entre ce que disent vos personnages et ce qu'ils pensent. Ici, il joue son rôle de principal. Il n'en pense pas moins. On a vu beaucoup de rôles. Je repense aussi au Bureau des légendes, où ce chef de la DGSE extérieur, oui, évidemment. E pour extérieur. J'habite juste à côté. qui a ce truc autoritaire et qui en même temps, il y a toujours un truc un peu pince sans rire derrière. C'est une chose très consciente pour vous, j'imagine bien, très travaillée. Mais justement, comment ça se travaille, ce décalage entre ce qui se dit et le message que le corps ou les yeux envoient?
Ben, je pense que jouer la comédie, c'est rajouter des couches tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ne pas se contenter de... ne pas se contenter de la situation, du texte. Et puis, oui, il faut donner une existence à un personnage. Cette existence, elle est forcément complexe. Je ne dis pas que je parle de son passé, dis quoi que ce soit, mais même si forcément on y pense et on construit un personnage un peu comme ça, mais ça se passe aussi sur le moment. Et on a accumulé des couches, il y a une forme de dépôt qui s'est créée en soi depuis très longtemps, avec le temps, parce que je m'observe, et j'observe les autres, et j'observe mes réactions. Et donc tout ça, ça constitue un espèce de terreau qui grossit avec le temps, plus on vieillit, plus cette besace s'alourdit. Et donc je vais chercher là-dedans. Et moi-même, quand je dis un texte, évidemment, j'ai aussi moi mon background, j'ai aussi quelque chose derrière. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ça me fait rire intérieurement? Est-ce que ça me fait sourire? Et puis il y a toujours ce viatique qui est l'amusement. C'est-à-dire que évidemment, si je me contente d'être dans une espèce de premier degré, je vais fatiguer assez vite. Alors que si je traverse des choses dans la tête différentes, si chaque prise j'essaie autrement, si ceci, si cela, il y a le plaisir de la rencontre aussi, parce que quand on est aussi là, vous parliez du Bureau des légendes, vous parliez de ce film et tout ça, d'un seul coup j'ai aussi affaire à d'autres acteurs en face, donc ça, c'est aussi ça qui fait que c'est ça qui vibre en avec l'autre acteur en face.
Alors ça vibre quand on fait des rencontres, mais ça vibre aussi beaucoup quand on retrouve. On peut pas terminer cet entretien sans évoquer Robert Guédiguian, long compagnonnage. Écoutez-le tout d'abord au micro d'Antoine Guillot, c'était sur France Culture en 2019.
Il y a quelque chose chez moi de maintenir un groupe, un collectif en état de marche, quelque chose qui me satisfait tout à fait de ce point de vue. Donc, en l'occurrence, c'est une troupe, comme une troupe au théâtre, je veux dire, qu'on peut réactiver. Et je crois qu'on est tous très très heureux de passer du temps ensemble, et pas une heure ou deux, de passer un mois et demi, deux mois, trois mois parfois, à se voir tous les jours, et donc même le temps hors tournage, le fait de parler de nos familles, de nos parents, de nos grands-parents, de la politique, des derniers films qu'on a vus, etc. Donc on est ensemble, c'est un peu refaire le point quoi, entre nous, hein, je veux dire, de nos vies aussi. Donc évidemment, ça c'est quelque chose de très agréable, auquel moi je tiens beaucoup. Apparemment tout le monde y tient beaucoup, puisque tout le monde continue à venir. C'est un peu des universités d'été, quoi, voilà. Chaque film serait l'université d'été de la troupe. Hein. Il y a ça. Et évidemment, après, dans le travail, il y a une chose extrêmement particulière, c'est que bien sûr que dans un contexte aussi amical, aussi familial, aussi convivial, les acteurs n'ont pas la moindre hésitation à lâcher prise, en fait, voilà. Donc ils n'ont aucune mauvaise pensée, j'allais dire, sur mais comment l'autre acteur, que pense l'autre acteur de moi, que pense la production, que pense le chef opérateur, en fait, du point noir que j'ai sur le nez, que pense, enfin, je veux dire, un film, c'est quand même une série de choses comme ça aussi. Là, il y a une espèce de telle habitude, confiance, etc., que tout le monde se sent dans une liberté totale, je crois, je veux dire, jusqu'à se laisser aller à... Maintenant, je commence à dire que je fais quand même un petit peu des documentaires sur les acteurs avec qui je travaille, quoi. À l'intérieur de la fiction qu'ils incarnent. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Je capte leur état, dans le personnage, bien sûr.
Alors, si j'ai bien compté, la fête continue. Le nouveau, prochain film de Robert Guédiguian, c'est pour vous le 17e avec lui. Oui. Donc, synthèse, vous avez le théâtre, la troupe que vous aimiez, le cinéma, et avec Guédiguian, vous avez les deux.
Voilà, d'un seul coup, c'était notre rêve. J'ai connu Robert avant, quand quand j'étais au conservatoire et quand lui ne pensait pas faire du cinéma d'ailleurs, mais quand même on avait des discussions sans arrêt sur l'idée de fabriquer notre outil de travail et on a créé ce qui est formidable, on a créé un lien fort entre nous qui nous permet de nous remettre tout le temps en jeu, de comme il dit la machine se remet en route. Et lui, voilà, il a son inspiration, il écrit des films formidables, voilà, et on est très content, et c'est vrai, d'être là et de sentir cette liberté. Il a tout à fait raison, c'est juste parce que ça nous permet d'avoir une exigence entre nous, parce qu'il faut quand même un petit peu se régénérer, se regarder, jouer ensemble et être capable de se dire de se surprendre, quoi.
Ouais, refaire
la,
ils vous connaissent par cœur, voilà, vous les connaissez par cœur.
Il faut se surprendre, quoi. Et donc
c'est du boulot,
pas si facile.
Il y a cette phrase de vous que j'aime beaucoup dans un entretien que j'ai lu. S'il est vrai que le cinéma est là pour divertir, il est là aussi pour avertir, pour subvertir même. Bien sûr, ça s'applique au film de Guédiguian, mais il me semble que cette phrase est juste aussi pour L'école est à nous.
Oui, c'est en tous les cas pour avertir, subvertir, en tous les cas, il y a une petite proposition, mais on n'irait pas jusqu'à là, mais en tous les cas, pour divertir, ça c'est sûr. Mais voilà, vertigo est un mot latin tout à fait intéressant, puisqu'il a donné tous ces mots-là.
Je rappelle que vous êtes en ce moment sur la scène du théâtre de Montparnasse dans la pièce de Simon Stephens, Le principe d'incertitude, mise en scène Louis-Doux Lanquesin, avec Laura Smet pour partenaire, mercredi à l'affiche du film L'école est à nous d'Alexandre Castagnetti. Merci Jean-Pierre Daroussin d'avoir été notre invité.
Mais c'est moi qui vous remercie.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
C'est l'heure à présent d'Affaires critiques. Bonsoir Lucille Gaumont.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir, des nouvelles d'un ancien invité d'Affaires culturelles, Angelin Preljocage, avec sa nouvelle création.
Oui, l'affiche est alléchante, un peu chic. Angelin Preljocage, chorégraphe mondialement reconnu, Thomas Bangalter, ex-membre des Daft Punk à la partition, dans la fosse, l'orchestre de chambre de Paris, au costume la créatrice de mode Adeline André, et ce sujet vaste et vieux comme le monde, mythologie. Alléchant, mais décevant. Comme si tous ces artefacts un peu luxueux ne fonctionnaient pas vraiment ensemble. Alors sur la scène, on assiste à une série de tableaux, le spectacle est rondement mené, il y en a bien une vingtaine en une heure et demie de spectacle, avec moult changements de décor grâce à une espèce de superposition de modules en fond de scène, parfois le plateau est nu et noir, parfois une forêt luxuriante apparaît, parfois des vidéos sont projetées qui montrent des visages en gros plan, des mains qui se tordent au ralenti, ou encore un montage qui fait défiler à toute vitesse des images de guerre. Une trentaine de danseurs et danseuses miment des mythes antiques, des nymphes abusées, des amazones tirant des flèches, un Icare suspendu, ça c'est pour le fond disons archaïque qui constitue une grande partie du réservoir mythologique employé par Preljocage, et s'intercalent des sujets contemporains. Une scène de catch en masque traditionnel bleu brillant convoque les mythologies de Barthes, des costumes cravates, une morale anticapitaliste bien sentie, et puis ces images de guerre, parmi lesquelles on repère évidemment un drapeau ukrainien en dernière partie.
Alors j'ai quand même du mal à vous suivre, Lucille, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses.
C'est un peu le problème du spectacle, c'est que chacune de ces vignettes fait sens, voire même le sens en est grossièrement évident, mais en revanche, leur accumulation, elle, reste assez obscure. Bon, ce simplisme, ça tient en partie au style Preljocage, dont de toute façon, je ne suis pas très preneuse. Cette gestuelle au bord du néoclassique, avec ses enchaînements très traditionnels, dans le fond, dans lesquels semblent verser opportunément de petites inflexions contemporaines, c'est une gestuelle très figurative, très narrative. Témoin, ce duo antique montrant un Zeus violeur, tout est ultra signifié dans les jetés et dans les portées. Chaque scène, en fait, semble polarisée entre deux intentions transparentes qui seraient l'amour d'une part, la violence de l'autre. Ça, c'est clair. C'est tellement clair qu'à cette échelle, on s'ennuie un peu. D'autant que la musique qu'on rajoute dans l'illustratif, Thomas Bangalter livre une partition lyrique qui ressemble au pire à une mauvaise bande originale hollywoodienne, au mieux à de la pop orchestrale un peu rythmée, et qui puise dans à peu près tous les rythmes de la danse occidentale traditionnelle, depuis la fugue baroque en gros jusqu'à la valse romantique. La musique participe à une impression un peu poussive, d'autant que chaque scène trop simple s'enchasse dans un ensemble trop compliqué qui lui échoue à faire sens. Quel est le rapport entre ces diverses sources, le mythe grec, la mythologie de Barthes, soit dit en passant, ce n'est pas la même chose, un mythe et une mythologie. Ces décors parfois abstraits, parfois au contraire très illustratifs, tout ça est un peu filandreux, peut-être même un peu prétexte. Prétexte pour parler de quoi d'ailleurs, représenter quoi? Les rapports de genre, l'injustice sociale, les origines de la violence, le monde. Alors bon, ça danse bien, cela va sans dire, l'enchaînement des numéros est fluide, l'orchestre à la fosse fait ce qu'il peut pour donner un peu de relief à la partition, les costumes sont très gracieux, ça flotte bien. Tout ça est très joli, mais quand même un peu vain.
Je ne suis pas sûr que vous y retourniez, Lucilla.
C'est pas sûr, mais encore une fois, ce n'est pas désagréable. C'est joli.
C'est joli. Ça rime avec Mythologie, c'est le titre du nouveau spectacle d'Angelin Prejlocage qui se joue au Théâtre du Châtelet jusqu'au 5 novembre. Il pourra le voir à Limoges les 12 et 13 novembre, à Meaux le 25. Toutes les dates, et elles sont nombreuses, sur le site de notre émission. Nous glissons vers Affaire en cours avec vous, Marie Sorbier, bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir, un coup de projecteur sur les inédits d'Édouard Levé.
Oui Arnaud, les éditions POL viennent de faire paraître un recueil de textes inédits du peintre, photographe et écrivain Édouard Levé, mort en 2007. Il disait avoir détruit presque toute son œuvre picturale, mais il reste les traces littéraires, dont les trois principaux piliers sont œuvres parues en 2002, Autoportrait en 2005 et Suicide en 2008. Je suis allée rencontrer Thomas Clair pour qu'il nous raconte de quoi sont constitués ces textes inédits. Thomas Clair, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, essayiste, maître de conférences en littérature contemporaine à l'Université Paris-Nanterre. Alors, d'où viennent ces textes et quelles sont les raisons de la publication en 2022?
Alors, ces textes proviennent du fonds Édouard Levé à l'IMEC, Institut Mémoire des Éditions Contemporaines, de l'édition contemporaine, en réalité par l'intermédiaire de son éditeur, Paulo Tchaïkovski-Lawrence, qui, de son vivant, avait aussi reçu un certain nombre de textes. Je me suis un petit peu appuyé sur les textes qui étaient issus de l'ordinateur d'Édouard. Et je me suis aperçu que en fait il y a énormément de textes qui n'ont pas été donc publiés, et je me dis que beaucoup d'entre eux mériteraient de l'être, ce qui me semble être finalement la vocation aussi des textes un peu dormants d'un écrivain, puisque on peut dire qu'une œuvre finalement n'est jamais fermée. Il y a des textes que l'auteur n'a pas forcément décidé de publier, mais qui méritent de l'être, au sens où l'auteur n'a pas toujours, à mon avis, le meilleur regard sur sa propre œuvre, et il est toujours bon d'avoir un regard extérieur. Et c'est pourquoi Paulo Tchaïkovski-Lawrence m'avait confié au fond cette édition, et que Frédéric Boyer, actuel directeur des éditions POL, m'a soutenu aussi dans cette démarche.
C'est très varié le type de texte qu'on lit dans ce recueil.
Oui, ça donne aussi une autre image peut-être de l'œuvre un petit peu fermée d'Édouard Levé, une œuvre très formaliste, une œuvre très, très mélancolique. Et j'ai voulu aussi renouveler un petit peu cette image, et j'ai découvert au fond un autre Édouard, un Édouard aussi qui travaillait notamment sur la notion de variété. En fait, je crois que cette édition, je l'ai pensée un petit peu à partir de l'idée de variété. Édouard est quelqu'un qui expérimentait beaucoup, qui essayait, qui écrivait des textes. Bon, certains d'entre eux, par exemple, sont inachevés dans ce volume, comme le roman qui s'appelle Amérique, épopée populaire, et qui n'a pas terminé, mais dont je donne par exemple le premier chapitre, qui me semble excellent et très drôle. Il y a aussi cette dimension d'humour qui apparaît, je pense, dans le volume, et notamment par exemple dans ce premier chapitre où on voit Édouard écrire un récit dans l'Amérique perdue des petites villes de province américaine qu'il documente. C'est à l'époque où il fait son œuvre photographique, qui consiste à documenter des villes américaines dont les noms sont les homonymes de grandes villes mondiales ou européennes, hein, telles Beyrouth, Paris, Texas, ou bien Bagdad, comme c'est le cas ici.
Alors, ce qui est très étonnant, c'est drôle que vous mettiez le doigt dessus, parce que en lisant ce recueil, moi, c'est l'humour qui m'a marqué. Oui. À la première lecture. Alors, deux exemples, justement, dans ce premier chapitre du roman, l'évocation des dents de la mer, par exemple, comme entreprise de saccage du plaisir de la baignade, c'est quand même très savoureux à lire. Et la deuxième chose, il y a un index qui s'appelle Tourisme expérimental, où ce sont des mots valises, des mots inventés, où en même temps, il se plaît à parler du tourisme tout en le dénigrant. Il y a un jeu sur ce thème-là. Est-ce que l'humour, ça fait partie des choses que vous vouliez montrer d'Edouard Levé?
Absolument. Bon, Edouard était quelqu'un de très drôle, avec un humour évidemment assez distancié, un humour assez british, mais en même temps, nous avons beaucoup ri ensemble. C'était un proche ami, et j'ai voulu aussi rendre hommage, voilà, à cette dimension humoristique qui éclate effectivement, comme vous l'avez dit, notamment dans ces dictionnaires, hein, ces dictionnaires subjectifs, ces dictionnaires personnalisés, où il a commencé à entreprendre une sorte d'encyclopédie burlesque du tourisme. On imagine, au fond, différents moyens de voyager, car je crois qu'Edouard n'aimait pas tellement voyager pour voyager. Au fond, il assignait toujours au voyage un but qui détermine le voyage. Et donc, il y a toujours, finalement, chez lui, cette dimension conceptuelle, on pourrait dire, qui donne un sens au voyage. Car sinon, le voyage pour le voyage, finalement, il le vit sous le mode du non-sens. Et lui va chercher des raisons ou des imaginaires pour voyager d'une autre façon.
Je crois qu'il y a une vie après la vie, mais pas une mort après la mort. Cette phrase d'Edouard Levé, on la retrouve dans la dernière page d'Autoportrait. Est-ce que c'est une façon de rendre réel ce souhait de publier ces inédits ?
Eh bien, c'est une manière de relancer un petit peu la métamorphose que Édouard avait vécue, puisque j'ai connu Édouard quand il était peintre. Il est devenu ensuite artiste, c'est une première métamorphose artiste conceptuelle, notamment en faisant de la photo. Il avait donc abandonné la peinture pour la photo, donc c'est une première métamorphose. Et ensuite, j'ai assisté à cette deuxième métamorphose assez belle et assez rare de l'artiste qui devient écrivain. Et d'une certaine façon, c'est une chose qui m'a frappé. Ça veut dire que Édouard avait la possibilité de se renouveler. Et cette édition, finalement, des inédits est encore une manière de montrer, au fond, qu'il y a toujours une ouverture possible dans une œuvre. On construit une œuvre selon certains principes, mais il y a aussi d'autres éléments qui interviennent dans la construction même de l'œuvre. Et c'est pourquoi j'ai mis dans cette édition plusieurs parties selon des genres, hein, que ce soit des descriptions de performances, j'ai ajouté des poèmes et des chansons.
Oui, il y a des poèmes à la fin,
oui,
des tercets.
Absolument. Alors, il y avait des tercets qui terminaient le suicide, mais il en avait écarté certains et que j'ai trouvé très, très beau et que j'ai mis les tercets qu'il avait écartés dans suicide. Là, c'est vraiment un acte éditorial qui m'incombe, évidemment. Mais je crois que c'est une façon aussi de montrer que ces tercets aussi ont une valeur en soi. Ils ne sont pas uniquement associés à suicide. Ils ont aussi une valeur propre. Donc voilà, c'était un peu cette idée cette notion de métamorphose. Édouard était très inspiré par les mutants. Il a fait des dessins mutants, par exemple, qui sont très beaux. Il va y avoir d'ailleurs une exposition à la galerie Lovenbruck à partir du 10 novembre, dont je suis le commissaire, et qui montrera aussi des choses qu'on n'a pas tellement vues d'Édouard, et notamment par exemple des dessins.
Je renvoie nos auditrices et auditeurs à ce livre qui vient de paraître inédit d'Édouard Levé, dont vous signez également la préface. C'est aux éditions POL. Merci beaucoup, Thomas Clerc.
Merci.
Et merci à vous, évidemment, Marie Sorbier. Et comme chaque lundi, nous prenons à présent des nouvelles culturelles de l'étranger. Ce soir, direction le Kosovo, où se trouve Louis Seyé, notre correspondant dans les Balkans. Bonsoir, Louis.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Il ne reste plus que quelques jours aux éditeurs, aux éditrices pour se rendre à Pristina où depuis fin juillet se tient Manifesta 14, une biennale d'art contemporain qui entend modifier l'urbanisme de la ville. Un événement à la portée internationale qui permet aussi à ce jeune état des Balkans de se faire une place sur la scène culturelle du continent mais aussi d'affirmer son identité qui est encore contestée par certains. C'est la première fois en effet que la capitale kosovare accueille un événement artistique de cette ampleur.
Et oui, effectivement, et c'est même la première fois que Manifesta se déplace dans le sud-est de l'Europe. Alors Manifesta, vous allez peut-être me demander, Arnaud, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une biennale d'art contemporain européenne qui réfléchit sur les liens entre l'art et l'espace public et qui a la particularité d'être nomade. Après Palerme ou encore Marseille, il y a 2 ans, c'est donc dans la capitale du plus jeune état d'Europe qu'a lieu cette 14e édition, avec la participation de plus d'une centaine d'artistes, pour la plupart originaires des Balkans et surtout du Kosovo.
Et l'un des objectifs de cette biennale, Louis, c'est de permettre aux habitants de se réapproprier l'espace public.
Oui, exactement. Alors, il faut savoir que les bâtiments et les lieux publics du pays ont beaucoup souffert dans les 30 dernières années. Il y a eu bien sûr le conflit en 1999 qui a amené le Kosovo à déclarer son indépendance de la Serbie. Et dans les années d'après-guerre, Pristina a connu un développement urbain très chaotique, favorisé par une corruption massive et un turbo-capitalisme, comme l'appellent les organisateurs de la Biennale. Une des conséquences aujourd'hui, c'est que la capitale kosovare dispose de très peu de lieux culturels, avec seulement un musée et une galerie officielle, et ça alors que sa population affiche une moyenne d'âge de seulement 28 ans. Alors, grâce à la Biennale, plusieurs lieux qui étaient laissés à l'abandon ont été rendus au public et transformés par exemple en médiathèque ou en centre d'art. Dardan Hoti est l'un des attachés de presse de Manifesta 14. Il nous parle par exemple du Grand Hôtel, à moitié délabré, qui se trouve au cœur de la capitale et qui est l'un des symboles du passé yougoslave du pays où le maréchal Tito avait sa suite réservée.
Avec Manifesta, on s'est vraiment battu pour ces lieux publics. Parce que personnellement, avant, je n'avais jamais pu entrer dans ce grand hôtel puisque l'accès était toujours interdit. De nombreux lieux ont été privatisés, fermés, laissés à l'abandon et parfois utilisés comme dépotoirs. Alors quand je vois aujourd'hui comment ces lieux ont été transformés et sont ouverts à tous, c'est vraiment une fierté. Malheureusement, pour 80% des citoyens de Pristina, les sorties culturelles, ce n'est possible que dans les centres commerciaux. Donc on espère vraiment qu'après cette biennale, les autorités prendront conscience qu'il faut protéger les lieux publics et les transformer en des lieux culturels au service des gens de Pristina.
Cette biennale, Louis, résonne aussi particulièrement avec les aspirations de la jeunesse et les changements qu'a connus le pays récemment.
Oui, le pays a connu il y a un an et demi une alternance qui a dégagé la vieille classe politique corrompue et qui a laissé la place à une jeunesse qui est véritablement bouillonnante au Kosovo. Il faut savoir que le Kosovo est le pays le plus jeune d'Europe, avec près des deux tiers de sa population qui a moins de 30 ans. Et cette jeunesse, elle se presse dans les couloirs du Grand Hôtel pour découvrir des œuvres qui abordent les questions d'identité, d'émigration ou de destruction de la nature. Avec son écho médiatique qui va bien au-delà des Balkans, Manifesta 14 permet surtout à cette jeunesse d'affirmer son identité européenne. Il faut savoir que 5 pays membres de l'Union européenne, dont l'Espagne et la Grèce, ne reconnaissent toujours pas l'indépendance du Kosovo. Anita, une visiteuse de 25 ans, espère du changement.
On sait que l'image du Kosovo n'est pas très bonne à l'étranger, surtout chez les gens qui ne sont jamais venus au Kosovo. Mais quand ils viennent ici, leur perception du pays change complètement, parce que certains croient que la situation est encore très tendue à cause de la guerre. Mais ils voient bien que ce n'est pas le cas et que les gens ont beaucoup changé. Aujourd'hui, nos aspirations sont évidemment européennes, vers l'Union européenne, et on attend cette libéralisation des visas.
Une obligation de visa que les Kosovars attendent depuis longtemps et qui est largement évoquée par les œuvres des artistes exposés à Manifesta.
Oui, beaucoup d'artistes ont abordé dans leurs œuvres ces thèmes de la liberté de circuler et de l'enfermement. Il faut voir que les 2 millions de Kosovars sont souvent présentés comme les plus europhiles du continent. Et pourtant, pour voyager, étudier ou participer à un événement artistique sur le continent, eh bien, ils font partie des seuls à avoir besoin d'un visa Schengen. Un visa qui coûte de l'argent et qu'il n'est pas toujours facile d'obtenir. Alors dans un pays qui est plus petit que l'Île-de-France, cette situation crée une certaine frustration. La néerlandaise Hedwig Fien est la directrice de Manifesta 14.
Il faut inclure le Kosovo et les pays des Balkans occidentaux dans une Europe démocratique. Parce qu'on le voit avec la guerre en Ukraine. On ne peut pas se permettre de les maintenir loin de nous, de dire non à cette jeune génération qui est si positive à propos de l'Europe, de les tenir à l'écart de notre histoire, de nos vérités, de nos idées et de nos rêves. J'espère que Manifesta aide à poser ces questions et aura un petit impact là-dessus.
Début octobre encore, et malgré les recommandations de la Commission européenne, les États membres, et notamment la France, ont encore refusé de supprimer cette obligation de visa.
Vous nous donnerez des nouvelles pour savoir comment cela évolue. En tout cas, merci pour ces nouvelles culturelles venues des Balkans. Grâce à vous, Louis Seyé. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcastée sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Como, Marie Sorbier, Juliette Marcaillou et Apolline Limosino.